1942 plutôt, lors de son transfert entre le tunnel de Clessy où il était réfugié avec son train blindé et où il devait s'acheminer vers le tunnel de Saint-André-les-Bertaux à Quetteville. Le maréchal Goering transitait par Mésidon et moi à ce moment-là, à cette époque, j'étais jeune cheminot et je me trouvais à l'infirmerie en face de la gare. Il était 10 heures du matin, la place de la gare était prévue bouclée à cette heure-là, et à 10h moins 5, lors d'une coupure d'eau à l'infirmerie où je me trouvais, on m'a demandé si je voulais aller puiser de l'eau à la pompe qui était sur le quai A de la gare de Mézilon. Je suis donc sorti avec mon seau en tôle galvanisée, et il n'y avait personne sur la place de la gare au moment de ma sortie, mais j'étais rendu au milieu de cette place, alors que des sidecars arrivaient de tous les côtés pour boucler la place. Personne ne m'a rien dit, sinon de l'évacuer, et je n'avais pas le choix entre un retour en arrière et puis ou bien continuer. Ce que j'ai fait, j'ai continué. J'ai continué avec mon seau, j'ai traversé la gare, la salle des pans perdus, qui existe toujours d'ailleurs, et je suis allé puiser de l'eau à côté du buffet de la gare. Lors de ma sortie avec mon seau rempli, j'ai vu, descendant d'un train blindé, le feld-maréchal Goering, entouré de son état-major. Et là, personne ne m'a rien dit. À mon retour, arrivé à hauteur de la porte de l'entrée de l'infirmerie, j'ai posé mon seau et, bien sûr, je me suis rincé l'œil, comme, en toute inconscience d'ailleurs, hein, je dois le dire, hein, parce que lorsqu'on a 17 ans et demi, on ne se rend pas très bien compte des dangers auxquels on s'expose. J'ai vu une Mercedes arriver, une Mercedes bleu ciel, ornée des fanions croix gammée et du fanion de l'aigle de la Luftwaffe. Et le maréchal Goering s'est assis d'une façon assez curieuse, puisque c'est un soldat qui lui a aidé à placer ses pieds sous le tableau de bord, qui lui a pris les deux pieds, qui lui a mis sous le tableau de bord. Il s'était assis en travers, et tout son état-major est monté derrière lui. Il s'agissait d'une voiture très longue, et puis des policiers de la fête gendarmerie ont circulé devant, il y avait également des SS, et derrière, il était encadré de motards, et ils sont partis vers une destination qui nous était inconnue. Le train blindé a stationné en gare assez longtemps. J'ai souvenance de la locomotive et du mécanicien qui était chargé de faire le train. Il s'agissait d'un monsieur de Mézilon. Je citerai son nom, contrairement à mon habitude, parce que ce monsieur-là est décédé. J'ai encore en mémoire ce gros bonhomme, ce gros pépère, qui s'appelait Jean Cadec et qui fumait sa pipe en descendant de machine. Le train blindé est reparti à vide. Tout ça toujours pour tromper l'ennemi, sans doute, parce que il fallait tantôt qu'il circule accompagné, et tantôt sans doute qu'il fallait qu'il circule, à cause de l'aviation anglaise, qu'il circule à vide. Bon, eh bien, je crois que c'est tout en ce qui concerne le maréchal Goering. Il s'agit, je vous répète, d'un fait qui n'est pas forcément glorieux, qui est plutôt de l'inconscience de la part d'un jeune homme. Oh oui, c'est plutôt de l'inconscience.
Écoutez, c'est tout à fait intéressant, mais est-ce que vous avez vu des actes de résistance ou est-ce que vous avez vu des participations quelconques lorsque vous étiez cheminot ?
Je crois que oui, et là vous me posez une question plutôt gênante. Vous savez que c'était une époque, je viens de vous le dire, qui était peu glorieuse pour les Français. Et si les gens faisaient des actes de résistance, ils les faisaient, comme on dit, en catimini. Personnellement, à la suite des deux déraillements de trains permissionnaires entre Mésidon et Argences, vous savez sans doute que les gens de la région avaient été requis pour garder les voies ferrées. Les troupes d'occupation se rapprochaient des mairies et faisaient un tableau de service par ordre alphabétique. Et les gens étaient contraints, forcés, de consacrer une ou deux fois par mois, si mes souvenirs sont bons, une nuit pour garder les voies ferrées. Garder les voies ferrées, c'était beaucoup dire, puisqu'on y allait les mains dans les poches. Hein. Mais il s'agissait de relever toute intrusion sur ces voies ferrées qu'on aurait été amené à voir. Alors je me souviens que je faisais ça, moi, toujours avec Jean Lamy, qui était entrepreneur de maçonnerie à Mésillon. On faisait ça puisque dans l'ordre alphabétique, on se trouvait ensemble. Et pour vous dire à quel point on se méfiait les uns des autres, moi, je gardais à hauteur des ponts des Acacias, c'est-à-dire à hauteur des cajoles, entre Mésillon et Ville Maugée. Et on s'était partagé l'itinéraire. L'un partait d'un point milieu situé entre le pont des Acacias et Mélile-Maugée, et pour aller vers le pont des Acacias, et l'autre vers Mélile-Maugée. Et on devait se retrouver, et là on rentrait dormir une heure ou deux, on faisait chacun son quart. Et chaque fois, je choisissais, moi, intentionnellement, le parcours de cet endroit-là à Mélile-Maugée. Pourquoi Mélile-Maugée ? Parce que c'était une petite gare où on y logeait tout un tas de wagons destinés à l'ennemi. Ces wagons sur lesquels on embarquait des chars, on embarquait du matériel de guerre, et il suffisait d'être un petit peu expert en la matière pour leur saboter consciencieusement leur matériel. C'est-à-dire, sans aucun risque, surtout sans aucun risque pour les occupés, les incidents se produisant beaucoup plus loin que la gare de départ, couper des boyaux de frein, mettre du sorbe dans les boîtes d'essieux. Alors je faisais ça d'une façon tout à fait isolée, tout à fait... Oui, pour vous situer une autre affaire, pour vous parler d'une autre affaire, les locomotives qui sortaient de réparation à ce moment-là du dépôt de Mésillon, il était bien rare qu'elles sortent très valides. Il y avait toujours dans le mécanisme, dans les cylindres ou dans les distributeurs, des pièces étrangères occasionnées grâce à l'avarie lors des premiers kilomètres, hein, ou lors des premiers tours de roue même. Alors évidemment, c'était pas tellement facile, mis à part les réseaux organisés qui ont justement fait dérailler les deux trains dont je vous parle, deux mardis de suite, hein, deux trains permissionnaires de la Kriegsmarine, ce sont des gens qui rentraient d'Allemagne et qui allaient à Cherbourg, et mis à part ces deux trains-là d'ailleurs où il y a eu de nombreux morts, et où il y a eu aussi en représailles de nombreux déportés. D'ailleurs, nous habitons dans un quartier où les rues portent encore les noms de ces gens qui y sont restés, à Buchenwald et ailleurs. Les actes étaient faits isolément. C'est après la guerre que les langues se sont déliées et qu'on s'est dit « Ben, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Ah ben oui, toi tu l'as fait aussi. Tiens, ben dis donc, ça se voyait pas. Hein, » et... Bon, puis c'est tout.
On sait bien que les cheminots ont eu un rôle très important dans la résistance. Qu'ils soient organisés ou non, c'est très reconnu. Alors si vous voulez maintenant, si vous ne voulez rien nous dire de plus à ce sujet... voulez-vous parler de votre rencontre avec Rommel? Rencontre lointaine.
Ça n'est pas une rencontre non plus, ça n'est pas une rencontre. Et je vous dis, c'est encore une affaire. Le 6 juin 1944, lorsque Caen a subi son gros, les 6 et 7 juin, leur gros bombardement, quoi, les gros bombardements de la ville de Caen, c'était si gros que les papiers de Monoprix volaient à 25 km, volaient au-dessus de Mésillon. Ça n'est pas rien. Le Monoprix de Caen, les papiers, à ce moment-là, il s'élevait un fort vent de l'ouest-sud-ouest, tel point d'ailleurs que les Alliés ont été sur le point de rembarquer, mais les papiers de la ville de Caen volaient sur Mésillon, des papiers calcinés ou à moitié calcinés. Alors, c'est quand même quelque chose. Et ce 6 juin 1944, l'eau, l'électricité, bien sûr, tout était coupé, la terre grondait comme si c'était agi d'un tremblement de terre qui serait difficile de situer sur l'échelle de Richter, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Le sol semblait s'ouvrir sous nous lorsqu'on pense que Caen et les alentours étaient bombardés par des 380 et des 420 de marine. C'est quand même quelque chose. J'en ai vu un de nous éclater d'ailleurs, un 420. C'est quelque chose d'impressionnant. Il était à côté du pont de la ligne de Potigny à la SMN. Il y avait une espèce de cigare, ben, 42 cm, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et long comme la table là. Hein. C'est impressionnant. Alors ça, c'était au mois de juin. Nous avons pu tenir à Mézidon et dans ses environs jusqu'à peu près à la fin juin. Le 14 juin, il y a eu un fort bombardement sur Mézidon qui a fait une cinquantaine de victimes. C'était un mardi. Une semaine plus tard, exactement le mardi suivant, il y a eu un bombardement par des grenades et des forteresses volantes qui a fait encore un grand nombre de victimes, mais moins de dégâts matériels. Et puis à partir de ce moment-là, on était forcé de se regrouper et de se diriger vers le pays d'Auge. Nous avons échoué chez les gens qui étaient fromagés, alors c'est là que je tenais les noms, nous avons échoué chez les gens qui étaient fromagés dans la proximité de Mézidon, à 4 km, et bien sûr, là aussi, il n'était plus question de pouvoir tenir bien longtemps. J'ai souvenir d'ailleurs d'un fait à ce sujet-là, lorsque la Panzerlehr est arrivée dans le secteur. C'est la Panzerlehr, c'était une division du char d'assaut, où les gens étaient habillés tout en noir, c'était des chars SS. Lorsqu'ils sont arrivés dans la région, ils ont occupé, bien sûr, systématiquement toutes les fermes, et ils ont camouflé leurs engins. C'est au moment de la bataille de Langannerie et de Roquencourt, à côté, ici, où d'ailleurs les Canadiens et les Polonais ont pris une malheureuse raclée. Et oui, ils se sont bien saisis après. Mais toujours est-il que nous étions à ce moment-là 22 réfugiés dans la ferme dont je vous parle, chez les fromagers dont je vous parle. Et l'arrivée de cette Panzerlehr a été ponctuée d'un événement assez curieux. Nous étions 22 à table. 22, qu'est-ce que je dis ? Une trentaine avec les gens de la ferme. 22 réfugiés, mais une trentaine de personnes. Et se présente à la porte un capitaine allemand, en grande tenue, et qui tenait absolument à s'exprimer en français. Qu'il l'a fait en nous récitant le corbeau et le renard. Il aurait pu choisir autre chose, et qui a demandé l'assistance s'il y avait quelqu'un qui était capable de chanter une chanson. Il avait le cœur gai, ce homme-là. C'était son droit. Vous allez voir qu'après, il avait guère de... Non, il n'aurait pas dû avoir le cœur gai. Et bon, il y a une dame qui s'est levée, une dame de nos amis toujours, qui s'est levée et qui lui a chanté la Marseillaise. Il est évident que l'assistance, nous-mêmes, on était glacés, parce qu'on dit qu'est-ce qui va se passer. Lorsque vous êtes entouré de SS et que vous avez une dame qui hurle la Marseillaise, surtout qu'elle chantait très bien, elle avait une voix splendide. Et bon, le bonhomme, il a claqué des talons, il s'est tourné, puis il est parti. Nous avons appris sa mort le lendemain matin à 10h. Il allait en tournée d'inspection en sidecar sur le front et il n'en est pas revenu. Il s'est fait tuer à 150 mètres à peu près de la ferme où nous étions. Bon, tout ça pour vous dire que on ne pouvait plus tenir sur cette partie du front. Il s'agissait de faire 25 ou 30 km pour s'en écarter. Ce que nous avons fait, nous sommes partis à deux garçons et en bicyclette avec des pneus pleins, des pneus fabriqués avec des anciens boyaux d'arrosage ou des choses comme ça. Et nous avons fait 25 km pour nous retrouver à côté de l'Ivaro, à Heurtevent. Heurtevent est situé sur une colline au-dessus de l'Ivaro, entre l'Ivaro et Vimoutiers, sur la route de l'Ivaro à Tortizambert. Je ne sais pas si monsieur connaît. Non ? Non, vous ne voyez pas. De toute façon, on domine la situation, à savoir qu'on a dans le bas, dans la vallée d'Auge, hein, vous avez la rivière Lavie qui passe. Vous avez d'abord, dans l'ordre, oui, Lavie, la ligne SNCF Ménilmogé-Agacé, et vous avez la route Livaro à Vimoutiers. Et vous avez, après, dans le virage, ici, la Sainte-Foy de Montgomery. Étant placé sur cette colline, nous y avons vécu pendant une vingtaine, 25 jours, jusqu'à la libération totale. Et le 17 juillet 1944, vers 16h45 environ, nous étions en train de jouer à la coinchée. Le fils du fermier chez lequel nous étions évacués, qui se trouvait avec nous, parce que nous étions là dans une laiterie, chez un régisseur de ferme, un régisseur de monsieur l'aîné d'ailleurs qui est décédé depuis. J'en ai eu l'occasion avec ma femme de rendre visite à son épouse il y a quelque temps. Et Nous étions là, sous un poirier, un prunier ou un pommier, je ne me souviens plus exactement, peu importe l'arbre, et il faisait beau, il faisait chaud, et nous jouions à la coinchée tous les quatre. Il y avait le fils du fermier, donc sa sœur, le premier valet de la ferme, et puis moi, on jouait à la coinchée. Et tout à coup, deux avions sont arrivés derrière nous, rasant les pommiers, et se sont mis à mitrailler. Et les douilles éjectées des ailes tombaient tout autour de nous. Sans savoir ce qu'il passait et ce qui se passait, nous avons vu une fumée s'élever sur la route. Et c'est le soir seulement que nous avons appris qu'il s'agissait d'un haut dignitaire de l'armée allemande, en l'occurrence le Feldmarschall Rommel. J'ai pu obtenir certains détails sur les soins qui lui avaient été donnés par quelqu'un qui était très proche de moi, un parent qui était médecin à proximité. Et, chose curieuse, le maire de la ville, le maire de Livaro, était pharmacien, il s'appelait M. Jossen. Il était pharmacien et c'est lui qui a prodigué les premiers soins au Feldmarschall Rommel. En premier lieu, les Feld gendarmes se sont adressés à mon parent et par Fuss, peut-être pas par lâcheté, par Fuss, chose que j'ai toujours désapprouvée d'ailleurs, ma parente a répondu que son mari n'était pas là, il était médecin, a répondu que son mari n'était pas là. Et c'est donc le maire de la ville, qui était un résistant, M. Le Seine, conseiller général, maire de la ville, qui a donné ses premiers soins, enfin le maréchal Rommel, avant qu'il ne soit évacué à l'hôpital de Vernet.
Il paraît qu'il l'a sauvé parce qu'il a dû lui donner des ampoules pour remonter le cœur, qu'il en avait besoin.
C'est exact, il en avait grand besoin. Son chauffeur, Christian, avait été tué. Un commandant ou un lieutenant, je ne suis pas sûr, qui l'accompagnait, qui était derrière, était également tué. Et un autre personnage qui était voisin de cet officier-là a été blessé. Et le Feldmarschall Rommel avait été, bien sûr, blessé assez grièvement. Il est évacué sur l'hôpital de Bernay, et à l'hôpital de Bernay, paraît-il, là, l'histoire n'est pas de moi, Hitler aura envoyé au Feldmarschall Rommel une plante verte qui est toujours, d'ailleurs, à l'hôpital de Bernay, qui vit toujours.
J'ai vu ça dans le livre.
Je ne sais pas. Ah bon ? Vous l'avez vu. Alors voilà, en ce qui concerne le maréchal de Rommel. Alors, il est arrivé autre chose. Quelques jours avant, oui, ça n'est pas tout à fait dans l'ordre ce que j'ai raconté. Il faudrait mettre de l'ordre un peu dans mes idées, mais je n'ai rien préparé, je m'en excuse. Hein. Quelques jours avant, j'avais donc le frère du médecin dont je vous ai parlé, là, un autre parent, qui était réfractaire au service du travail obligatoire, et qui était, comme on disait à l'époque, camouflé, réfractaire, donc caché dans une ferme auprès de Sainte-Marguerite de Viette. Tout le monde sait, enfin l'histoire l'a dit après, que le Feldmarschall Rommel avait son quartier général à Boissé à cette époque-là. Et un jour, il faisait beau, d'heurtevant, je décide d'aller voir mon parent caché à la ferme Mélon, cite le nom, à la ferme Mélon à Sainte-Marguerite-de-Viette, et bien sûr, me voilà parti, toujours avec ma bicyclette à pneus pleins, et je monte la côte, et je demande à un fermier, on me dit ce sera le deuxième chemin sur la droite dans cette espèce de ruelle. Bon, je vois bien le premier chemin, je vois bien le deuxième, mais au deuxième, il y avait toute une garde SS. Il y avait des sidecars arrêtés partout, hein, et il y avait des gens qui me disaient de m'en aller, d'évacuer les lieux et tout ça. Et je descends de ma bicyclette, et en poussant mon vélo à la main, je me suis hasardé dans ce chemin en cul-de-sac, au bout duquel il y avait justement la ferme où je devais me rendre. Je n'avais pas d'autre issue pour aller voir mon parent, hein, qui était réfractaire, je ne pouvais passer que par ce chemin-là. Et tous les 3 ou 4 mètres, il y avait un SS qui me faisait « Vec, vec, raus, raus, raus ». Et j'ai continué. J'ai continué, comme tout à l'heure, l'histoire de mon sou, là, j'ai continué avec mon vélo à la main. Et à un détour du chemin, il y avait dressé une grande table pliante, en contreplaqué, une table de 5 ou 6 mètres de long, sur laquelle il y avait tout un tas de cartes détalées. Et il y avait là tout le grand état-major allemand. Feldmarschall Rommel, Blumentritt, Sepp Dietrich, d'autres, Ils étaient tellement nombreux. Il y avait des gens au pantalon à bandes rouges. Et bien sûr, j'étais un peu interloqué. J'ai revu depuis d'ailleurs dans les ouvrages, un seul a levé les yeux sur moi. Je crois bien que c'est Blumentritt parce que j'ai vu son regard clair. Et ça m'a un peu surpris. Je voyais un peu un regard à la Kurt Jurgens. Vous voyez ce que je veux dire? Un regard très très clair. Et bon, j'ai continué, hein, je n'ai pas demandé mon reste, et je suis arrivé chez mon cousin, qui était en guenille, et il me dit, t'as osé venir jusque-là? Ben, j'ai dit, j'ai pas osé, je n'ai pas réfléchi, j'ai continué. J'ai dit, je vais le voir, je ne suis pas coupable, je n'avais aucun désir malfaisant vis-à-vis de l'occupant. J'allais voir mon parent, qui était retranché là, qui était du même âge que moi d'ailleurs, puisqu'on s'est engagés tous les deux après ensemble. Hein. Et il était là, bon, j'allais lui dire bonjour. Et c'est encore une fois, fortuitement, surpris que je me suis trouvé en présence de ces gens-là. Voilà.
C'est extraordinaire.
Oui, peut-être. Peut-être extraordinaire. Oui, peut-être. A posteriori, oui, lorsqu'on y pense, c'est assez curieux.
Vous n'avez pas eu de contact avec Caen ?
Avec Caen ? Ah si. Le 17 juin 44. Oh, alors là, bah, oui, mais alors là, on n'est plus dans l'ordre du tout. Le 17 juin 44, je suis venu à Caen. C'est ce que je vous disais peut-être l'autre jour quand on s'est vu, quand nous nous sommes vus. C'est l'époque où l'on voyait l'heure à l'église de Vaucelles depuis la préfecture, quoi. Hein ? Il n'y avait plus rien à Caen. Je suis venu à Caen pour des pris sous un bombardement. Il y avait juste un pont sur l'Orne, la passerelle de la rue de l'Arquette. C'était le seul pont qui subsistait. Et ils ont fait passer là-dessus du matériel de guerre d'un poids épouvantable, parce qu'il fallait bien qu'ils dégagent. C'était la seule issue, il n'y avait plus que ce passage sur l'Orne. Et l'artillerie de marine le savait bien, puisqu'elle bombardait avec du 380 et du 420. Hein. Et ils ont bombardé, et il y avait les batteries d'ailleurs qui étaient à Fleury, qui répondaient. Je suis parti à 5h du matin de Mésidon pour venir à Caen, vous allez voir comme c'est bizarre, récupérer une barrique de 55 litres de vin et un vélo de femme. Risquer sa peau pour une barrique de 55 litres de vin et un vélo de femme, qui permettait bien sûr d'aller plus loin au cas où. Mais enfin, nous les avons récupérés quand même, le vélo de certificat d'études de la fille. Alors nous sommes partis à trois personnes de Mésidon, mon ancien contremaître du dépôt, M. Piel, avec une petite remorque derrière sa bicyclette, sa fille dans la remorque, et puis moi, je suis tout seul sur mon vélo. Et tantôt, lui utilisait mon vélo, moi le sien entraînant la jeune fille, hein, lorsqu'elle venait chercher son vélo, ils habitaient ces gens-là rue de Falaise. Eh bien, nous sommes arrivés à rue de Falaise à 13h30, partis à 5h du matin de Mésidon. Et sur ce trajet-là, eh bien, on a vu la guerre dans toute son ampleur, parce qu'il a fallu traverser les lignes, il a fallu se faire... On nous a fait sauter des bandes de mitrailleuses au-dessus de la tête pour nous effrayer, pour nous faire comprendre qu'on devait partir. Et nous avons pu repartir. Nous sommes arrivés à la demi-lune. D'ailleurs, j'ai vu un festival... un combat aérien formidable de ma vie, je crois que je ne reverrai jamais ces choses-là. Peut-être 100, 150 avions qui tournoyaient en l'air des deux nationalités, enfin des trois, l'anglais, américain, allemand, qui se battaient à mort et les balles qui tombaient tout autour de nous. Je dis, mais c'est pas possible, on va y rester. Et c'est un spectacle, croyez-moi, on n'avait pas envie de mettre la tête dans les bras et de ne pas voir ça. On était au contraire couchés sur le dos et on regardait ce qui se passait en l'air. C'est incroyable, je pense qu'il pouvait comprendre cette chose-là. On ne pouvait pas t'allonger la tête dans les mains, non, il fallait qu'on voie. Il fallait qu'on voie, on était sur le dos, on regardait le ciel. Bon, il était 13h30, peut-être 14h, lorsqu'on a pu arriver à atteindre la rue de Falaise. Hein. Et vous savez où est la brocante, tout de suite, la rue de Falaise. C'était à peu près à cette hauteur-là, hein, à droite, là, où il y a une succursale du Crédit Agricole, la brocante, c'était par ici. Et nous sommes arrivés chez ce monsieur. La bicyclette, il n'y avait eu aucun problème pour la récupérer. Elle était dans la cuisine. Bon, mais les pneus, depuis le certificat d'études de la jeune fille, les chambres à air avaient pris et avaient atteint une certaine porosité. Il a fallu gonfler les roues qui claquaient tantôt là, tantôt ailleurs. Bon, après, à force rustine, on avait réussi à gonfler. Pour atteindre la barrique de 55 litres de vin dans le sous-sol de la maison, a fallu au préalable bousculer un sommier qui condamnait la porte, parce qu'il était mis en équilibre sur la porte, on ne pouvait pas l'ouvrir, il fallait avec une tringle en fer refaire tomber le sommier pour pouvoir ouvrir la porte. Il y avait aussi cette affaire de pillage, et vous et les gens se prémunissaient un peu de toutes ces choses-là d'une façon ou d'une autre quand ils évacuaient leur maison. Ça, c'était un monsieur de camp qui avait évacué sur Mésidon. Et là, bon, on réussit à mettre la barrique de vin dans la petite remorque et on réussit à faire monter la jeune fille sur sa bicyclette. Mais on n'était pas rendu à Mésidon pour autant. Il fallait retraverser des lignes. Et quand on sait que les Anglais, l'artillerie anglaise était à Colombelle, était sur le plateau, et qu'elle prenait d'enfilade la Nationale 13 actuelle, ça représente certains dangers, surtout quand vous êtes en train de réparer des roues de vélo à plat ventre, au pied du talus de la ligne de Petigny à Essemen. Hein ? Alors bon, parce que les roues étaient déjà crevées, les pneus étaient déjà crevés, on avait crevé 3 ou 4 fois déjà depuis le départ de la rue de Falaise. Toujours est-il qu'on a regagné Mésidon le soir à 22h, depuis 4h du matin jusqu'à 22h pour faire l'aller-retour camp. Et tout ça avec force plavante. Enfin, ça, c'est anecdotique. Bon, ça ne présente pas tellement d'intérêt.
Alors, vous avez vécu une guerre très agitée.
Agitée ?
Très agitée. Vous avez été témoin d'événements formidables parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à pouvoir apporter de tels témoignages.
Je crois que si, mais les gens hésitent. Les gens que je connais personnellement hésitent. Si moi je le fais aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui me pousse. Je crois que, d'une part, c'est peut-être le recul. Bon, puis la fatigue aussi de rencontrer ça en famille, parce que on est copieusement interrogé, tout ça. Les plus jeunes vous demandent pas, mais enfin, on croit-il de leur dire. Et puis surtout, je crois que les plus jeunes ont marqué un tel manque d'intérêt pour ces choses-là qu'il serait peut-être bon d'en redonner un peu, je crois.
Mais en tout cas, jusqu'ici, on a toujours dit que ces rencontres orales, elles étaient extrêmement positives à tous égards. Que ce soit pour ceux qui parlent autant que pour ceux qui les écoutent, c'est important de confronter les souvenirs. Je vous remercie, monsieur.
Je vous en prie.